Radio Kapi. Oh, Kapi. Babel Pongo Masimango pour le journal.
Bienvenue à cette édition du journal avec à la une la Coupe du Monde avec l'élimination hier de la RDC. Une défaite 1 contre 2 face à l'Angleterre en 16e de finale. Malgré cela, beaucoup de Congolais saluent le parcours historique de leur équipe nationale. Dans l'actualité aussi, ces mesures des autorités de l'Ituri pour lutter contre Ebola, c'est entre autres la limitation du nombre des passagers dans les transports en commun, l'autorisation à l'équipe de riposte au sol de manipuler les corps de défunts et les rassemblements sont aussi soumis à certaines restrictions. Comme invité le docteur Médard Kabuyaya, chirurgien à l'hôpital Île Africa de Goma, nous parlerons de cette opération visant à donner gratuitement le sourire aux enfants nés avec une fente labio-palatine ou bec de lièvre, initiative que ce centre mène avec l'ONG Smile Train. Madame, Monsieur, bonjour. Coupe du Monde 2026, la RDC est tombée les armes à la main devant l'Angleterre hier mercredi à Atlanta Stadium aux États-Unis. Le pays de Léopard est éliminé en 16e de finale après sa défaite face à l'Angleterre sous le score de 2-1 et quitte donc la compétition. Malgré cette élimination, la plupart des Congolais saluent la prestation de leur pays en cette compétition planétaire. Blaise Ondongalom s'en dit plus.
Les poulains de l'entraîneur Sébastien Desabre ont idéalement entamé la rencontre en surprenant les Free Lions dès la 7e minute grâce à une superbe ouverture du score signée Brian Sipenga. Solide, discipliné et dominataire durant la majeure partie de la première période, les Léopards de la RDC ont longtemps cru à l'exploit en contenant les assauts anglais pendant plus d'une heure de jeu. L'expérience du haut niveau a finalement fait pencher la balance en fin de match en faveur de l'Angleterre. L'attaquant vedette Harry Kane a inscrit un doublé salvateur à la 75e et à la 86e minute, renversant ainsi la situation. Malgré la frustration légitime de se faire renverser à toute fin de partie, la RDC quitte cette compétition la tête haute, souligne la majorité des Congolais.
Il faut féliciter nos Léopards. On ne pensait pas qu'on pouvait arriver ici. Nous avions des ambitions de participer. Mais en participant, nous sommes qualifiés au 16e de finale. À ce stade, on ne doit pas être dur avec nos joueurs ou avec notre équipe. On n'a pas été ridicule.
Pour leur grand retour sur la scène mondiale après 50 ans d'absence, les Léopards de la RDC ont réussi à franchir la phase des groupes, signant ainsi une performance historique pour le football congolais. L'équipe pose désormais des bases solides pour l'avenir et prouve qu'elle peut rivaliser avec les plus grandes nations du football mondial.
Ebola en Ituri. Les autorités provinciales renforcent les mesures de prévention. Dans un arrêté signé lundi, le gouverneur militaire impose plusieurs dispositions destinées à lutter contre cette maladie. Ces mesures entrent en vigueur immédiatement. Les autorités appellent la population à les respecter afin de limiter la propagation de l'épidémie. Quelles sont ces mesures, Jean-Claude Lokidile?
Parmi les principales dispositions, toute manipulation d'un corps sans vie avant l'arrivée des équipes de la riposte est désormais interdite. Les piscines publiques sont également fermées jusqu'à nouvel ordre. Les conducteurs de taxi moto devront porter une combinaison imperméable, un masque et un casque. Ils ne pourront transporter qu'un seul passager à la fois et devront désinfecter systématiquement leurs clients. Les taxis et véhicules de transport en commun sont aussi soumis à de nouvelles règles. Le nombre de passagers est limité et le lavage des mains devient obligatoire avant l'embarquement. Les rassemblements dans les lieux fermés restent autorisés, mais ne devront pas dépasser 50 personnes. Par ailleurs, les autorités placent la commune de Mongwalo et les centres commerciaux de Nyanya sous haute surveillance sanitaire. Les contrôles sont également renforcés au poste d'entrée de la province avec prise de température et lavage systématique des mains de voyageurs. Dans un contexte où de nombreux habitants ne respectent pas toujours les consignes des autorités, leur mise en œuvre constituera l'un des principaux défis de la riposte contre Ebola. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Kapi.
Nous restons en Ituri. Deux personnes ont trouvé la mort lors des violences survenues la nuit de lundi à mardi au centre de traitement d'Ebola de Bafabango, situé dans la zone de santé de Nyanya, territoire de Mambasa. Au cours de ces incidents, plusieurs patients dans des cas confirmés et suspects d'Ebola se sont échappés du centre. Les autorités sanitaires déplorent ces actes qu'elles estiment susceptibles d'aggraver la propagation de l'épidémie dans la communauté. Nous faisons le point avec Martial Kizabiamungu.
Le centre de santé d'Ebola installé au centre de santé Djourdi à Nyanya a été pris d'assaut le lundi après-midi par des manifestants majoritairement des jeunes. Selon des sources locales, ces manifestants protestaient après le décès d'un habitant pris en charge pour Ebola dans cette structure sanitaire. Au cours des violences, certaines infrastructures du programme gouvernemental des 145 territoires qui abritent les centres de traitement d'Ebola ont été incendiées et d'autres vandalisées. Selon des sources sécuritaires, un policier est intervenu pour établir l'ordre a été lynché par la foule. Une autre personne, blessée par balle au cours des affrontements, a succombé à ses blessures. Le chef de groupement Ngayo, Alexis Mungaki.
Ebola n'est pas une affaire d'argent, c'est une maladie réelle. Ce qui vient du Nord Kivu intoxique la population pour rien. Les gens cherchent à véhiculer les fausses informations sur Ebola. Ce n'est pas bien.
De son côté, le médecin chef des zones de santé de Nyanya indique que deux patients confirmés positifs d'Ebola ainsi que sept cas suspects qui étaient pris en charge ont profité de ces violences pour s'enfuir. Les autorités sanitaires redoutent désormais un risque élevé de propagation de la maladie au sein de la communauté Bunia. Martial Kiza Biamungu, Radio Okapi.
Nous sommes au Nord Kivu à présent, dans le territoire de Lubero précisément. Un retour timide à la vie normale s'observe dans les zones de santé de Mangorejipa et de Biena. Après près de deux ans de paralysie liée à l'insécurité, les structures sanitaires en rouvrent progressivement dans le secteur de Bapéré, fermé à la suite des attaques de groupes armés, notamment les ADF. Elles tentent aujourd'hui de reprendre leurs activités, mais cette relance reste fragile et la prise en charge des malades demeure confrontée à de nombreux défis. Martial Papimouké va nous décrire la situation.
Au moins sept centres de santé ont rouvert leurs portes depuis des mois dans les zones de santé de Mangurujipa et de Biena. Il s'agit notamment d'Akwele, Midede, Bandulu, Mabuo, Isange, Ombele et Liboyo qui portent les noms de leurs villages. Ces structures étaient fermées depuis 2024 à la suite des attaques des ADF forçant les personnels soignants à fuir. Mais pour la société civile du secteur de Bapéré, les difficultés de fonctionnement restent importantes. Plusieurs de ces structures ont été victimes de pillages, selon son président Samuel Kaeni.
Des médicaments qui étaient là-bas juste avant l'attaque sont déjà pourris. Tous ces centres n'ont plus de lits, de panneaux. Il y a des centres de santé qui étaient vandalisés par les ADF. Ce sont là les grands défis auxquels ces structures sont en train de se heurter pour leur fonctionnement. La population qui est en train de regagner ces zones ont besoin d'être soignés. Malheureusement, il n'y a pas de soins. Il y a des structures qui ont été brûlées. Nous sollicitons de l'aide.
La société civile appelle les autorités et les partenaires humanitaires à renforcer ces structures sanitaires en fait de garantir une prise en charge adéquate des populations retournées. Béni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Et puis cette bonne nouvelle pour les enseignants de la province du Maniema, la MSP, un mutuel de santé des enseignants de l'EPSP a lancé hier 1er juillet l'effectivité de la prise en charge des enseignants. Après identification, plus de 1200 enseignants vont bénéficier dans un premier temps de ce soin de santé gratuit avec leurs dépendants. Florence Kizalunga nous en dit plus.
C'est au centre de santé de Basoko que tout a commencé en présence des autorités scolaires provinciales. Fundi Lando, enseignant à l'Institut de Kindu, était le premier à être pris en charge gratuitement. Il nous livre ses impressions.
Dès lors que je me suis présenté dans le centre de santé, on m'avait accueilli et j'ai été servi convenablement.
Compagnie Kalambaye, coordonnateur provincial de MSP, parle des modalités de prise en charge.
Pour qu'un enseignant bénéficie de soins de santé, il doit d'abord être identifié. En ce moment-là, on va lui octroyer sa carte de soins. C'est au moins dans sa carte de soins qu'il pourra se rendre aux structures sanitaires pour les soins de santé.
Cependant, certains enseignants expriment leurs craintes par rapport à la disponibilité des médicaments dans les centres de santé. Zachary Bafofo.
Nous demandons à la MSP d'être plus proche des enseignants parce que nous savons qu'il se posera absolument les problèmes des médicaments.
Jacqueline Doromo, responsable du centre de santé de Basoko, rassure.
Nous leur garantissons ici tous les médicaments qui vont manquer, on va acheter pour leur compte.
Pour cette prise en charge des enseignants, MSP travaille avec 4 centres de santé, des hôpitaux et un centre de soins ophtalmologiques. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Le Bureau central de coordination BCCO a lancé hier mercredi à Kinshasa des ateliers d'échange dans le cadre du projet Varsita, destiné à réduire les effets du changement climatique sur les populations. Prévu pour 10 ans, ce projet vise également à promouvoir des initiatives innovantes ainsi que le transfert de solutions favorisant l'adaptation au changement climatique. Cette démarche d'adaptation au changement climatique porte notamment sur la gestion durable de l'eau, le développement agricole ainsi que la préservation des ressources naturelles. Davantage de précisions avec Séphorin Paca.
Le projet Varsita résulte d'un partenariat entre le Bureau central des coordinations, l'ONU-DU, les Fonds pour l'environnement mondial, le ministère de l'Environnement et Développement durable, ainsi que le ministère de l'Industrie et du Développement de PME. Réunis à Kinshasa pour 2 jours d'atelier, le partenaire travaille en collaboration d'une feuille de route destinée à assurer la mise en œuvre du programme. Le directeur général du BCCO, Alongo Longomba Sylvain, a présenté les grandes orientations de cette initiative.
Les changements climatiques constituent une réalité dans nos vies quotidiennes. BCCO a réussi le financement des fonds pour l'environnement mondial et ces projets impliquent plusieurs parties prenantes. Il y a les services publics, la société civile, les universités, les centres de recherche, les entrepreneurs, le PME, donc une diversité d'acteurs.
De son côté, la secrétaire générale du ministère de l'Environnement, Mbangu Kikumi Pascaline, a salué cette collaboration, estimant qu'elle marque une avancée pour les institutions nationales dans l'accès aux financements environnementaux.
Pour moi, c'est un honneur d'avoir une institution de la République qui est parmi les bénéficiaires, c'est-à-dire les agences qui doivent mettre en œuvre le projet des fonds de l'environnement mondial, les fonds de Jeff.
Les programmes Varsita bénéficient d'un cofinancement de 22 millions de dollars américains et prévoient la création de 200 emplois.
Faire passer les petits producteurs d'huile de palme de l'informel à des coopératives mieux organisées afin de leur faciliter l'accès à la formation, aux semences améliorées et au financement, c'est l'une des ambitions réaffirmées par les plantations et huileries du Congo, PHC, à l'occasion de la 31e réunion des hauts responsables des pays producteurs d'huile de palme, rencontre tenue récemment à Jakarta, en Indonésie. L'entreprise entend renforcer cette démarche dans ses zones d'exploitation RDC, notamment dans les provinces de la Mongala, de la Tchopo et de l'Équateur. Monique Gesquest, directrice générale de PHC, explique cette démarche dans ses propos recueillis par Grace Hamzati.
En République démocratique du Congo, les plantations et huileries du Congo travaillent directement avec les planteurs partenaires, les communautés qui sont engagées dans la production agricole ici de l'huile de palme. Et les plantations et huileries du Congo ont l'ambition de les structurer et de passer à une production plus ou moins informelle, à une structure autour des coopératives afin de leur donner accès à des formations et leur donner accès également à un matériel génétique performant de pointe, donc des semences améliorées, et de pouvoir leur accorder également notre accompagnement sur les produits, les instruments financiers qui sont disponibles dans le pays. Ici, c'est très très important parce que ici, les producteurs partenaires, nous les appelons comme ça, les agrégés, en tant qu'agrégateurs, nous souhaitons les rendre plus forts et leur faire participer à l'économie des provinces là où ils sont implantés. Et nous allons commencer par les provinces où les plantations et huileries du Congo opèrent déjà.
À l'occasion de la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance de la RDC, le mouvement des jeunes intellectuels chrétiens appelle à replacer les préoccupations des Congolais au cœur du débat politique. Ces plaidoyers ont été faits mardi 30 juin au cours d'un point de presse à Kinshasa. Profitant du débat actuel sur le changement ou la révision de la Constitution, cette organisation sociopolitique et culturelle estime que les priorités du pays demeurent la paix, la sécurité, l'emploi des jeunes, l'accès à l'eau, à l'électricité, aux soins de santé et à l'éducation. Ce mouvement considère qu'une éventuelle réforme de la Constitution ne peut être engagée dans le climat actuel de méfiance, mais doit plutôt résulter d'un large consensus national. Nous proposons de suivre à ce sujet Benjamin Tshitadi, président national du mouvement des jeunes intellectuels chrétiens. Il est au micro de Jean-Marc Matwaki.
Une question demeure, quels sont les véritables intérêts du peuple congolais? Pour les MJIC, les priorités du peuple congolais sont claires. Mettre définitivement fin à la guerre et rétablir la paix sur toute l'étendue du territoire national, restaurer la sécurité des personnes et de leurs biens, créer des emplois pour les jeunes, garantir l'accès à l'eau potable et à l'électricité, améliorer les systèmes de santé et d'éducation, consolider l'état des droits et lutter contre les inégalités afin que les richesses nationales profitent à tous. Malheureusement, ces préoccupations essentielles passent souvent au second plan alors que les rivalités politiques mobilisent davantage les énergies.
Actualité internationale.
Les manifestations anti-immigrés organisées en Afrique du Sud mardi à l'appel de groupes d'initiatives citoyennes se sont déroulées de manière apaisée. C'est en tout cas ce qu'a déclaré la police sud-africaine hier mercredi, se félicitant de l'exercice dans les normes d'endroit inscrites dans la loi fondamentale. Pourtant, rapporte africanews.fr, des pillages et saccages des magasins ont été signalés dans certaines villes, mais la police dédramatise.
L'invité.
L'ONG internationale Smile Train, littéralement le train du sourire, a organisé lundi à Goma une journée de la famille pour les enfants nés avec une fente labio-palatine. Rappelons qu'il s'agit de ce petit espace au niveau de la lèvre ou du palais qui ne s'est pas complètement refermé pendant la grossesse. Pour réparer ces visages gratuitement, l'organisation collabore avec 3 hôpitaux de la place, parmi eux l'hôpital Île Africa. Le docteur Médard Kabouyaya est chirurgien au sein de cet hôpital. Il explique le processus de prise en charge de ces enfants dans cet entretien avec Rosalie Zawadi.
Professeur Médard Kabouyaya, bonjour.
Bonjour.
C'est quoi l'objectif de la célébration de cette journée du sourire?
L'objectif de notre journée aujourd'hui, c'était une journée de la famille, là où nous remettons les sourires aux enfants porteurs de fentes et aussi à toute la famille. Et quand nous parlons de la famille, c'est toute la communauté. Parce qu'un enfant né avec fente, lorsqu'il a été pris en charge d'une façon multidisciplinaire, cela donne la joie, pas seulement aux patients, mais aussi à la famille. Et après la famille, c'est la communauté. Et c'est cette joie-là qui nous a réunis aujourd'hui.
Et combien d'enfants ont été remis aujourd'hui?
Aujourd'hui, nous avons réuni une affaire de 20 d'enfants qui avaient bénéficié de prise en charge des fentes labio et palatines dans notre ville de Goma. Et ce sont des adultes comme des enfants. Je vis les sourires sur leurs lèvres. Et les parents sont venus témoigner parce que les parents sont complètement satisfaits.
Et comment s'est fait la prise en charge des cas de fente labio-palatine?
Vraiment, pour la prise en charge de la fente labio-alvéolo-palatine, c'est un parcours qui demande une période de la naissance jusqu'à l'âge de 21 ans, là où il y aura plusieurs intervenants, notamment l'obstétricien qui va diriger l'accouchement, les sages-femmes, on aura des psychologues, des nutritionnistes, il y aura des spécialistes en ORL, des chirurgiens maxillofaciales, chirurgiens plasticiens, des logopèdes, des orthodontistes. Et c'est ça qui fait le parcours pour une prise en charge complète et globale.
Qu'est-ce qui est à la base de ces fentes? Pourquoi un enfant né avec une fente labiale?
Il y a beaucoup de facteurs qui favorisent le développement de cette pathologie. Alors nous avons d'abord les facteurs environnementaux. Donc ce qui se trouve dans notre nature, c'est un problème de dénutrition, problème d'alimentation locale qui sont pauvres en acide folique. Nous avons aussi des infections comme la rubéole qui peuvent être à la base. On a aussi certains médicaments qui peuvent être responsables. Et à part les facteurs environnementaux, nous avons de l'eau, on a des minéraux partout au Congo, et ce sont des minéraux radioactifs qui peuvent influencer le développement de la fente. Maintenant, il y a aussi des facteurs génétiques. Alors, s'il y a maintenant antécédent de fente dans la famille, donc la probabilité encore que cette famille puisse avoir encore un enfant de fente augmente. Maintenant, il y a des familles là où il y a l'interaction des facteurs environnementaux et des facteurs génétiques. Et c'est ça qui explique cette fréquence des fentes dans nos milieux.
Par exemple, à l'hôpital Île Africa, combien de personnes sont prises en charge pour cette fente labiale?
Ici, dans notre hôpital Île Africa, nous sommes en mesure d'opérer en moyenne 8 patients par mois. Ces 8 patients qui nous viennent des zones de santé de Goma, comme des zones de santé en dehors de Goma, nous avons Masisi, Rutshuru, Walikale et la zone de santé de Lubero. Et ça, c'est du point de vue local. Et lorsque nous allons en clinique mobile, je suis en mesure d'opérer même plus de 50 malades par clinique mobile. Et ce qui nous donne une moyenne de patients que j'opère tout au long d'une année, c'est dans les 300 à 350 patients. La prise en charge des fentes est gratuite, supportée par Smile Train. Et actuellement, les chirurgiens aussi sont disponibles, donc l'accessibilité des chirurgiens ne pose plus de problèmes.
Et quel message avez-vous à adresser à la communauté pour prévenir ces fentes labiales?
Alors, le message que nous pouvons adresser à la communauté, c'est que la fente n'est pas un problème aujourd'hui, parce que la prise en charge, elle est gratuite. Alors, il ne faut plus garder les enfants nés avec fente à domicile, parce qu'ils ont beaucoup de problèmes de fonction, manger, boire et respirer, et de venir à l'hôpital, parce que Smile Train est disponible pour les accompagner et les prendre en charge.
Docteur Médard Kabuyaya, je rappelle que vous êtes chirurgien à Heal Africa, spécialisé dans la réparation des fentes labiales et palatines. Merci.
C'est moi qui vous remercie.
Merci également à vous, Rosalie Zawadi. Et c'est ici que nous bouclons aussi ce journal qui a connu l'apport de Jude Mister Bilanda à la coordination et de Dieudonné Nyangasa à la technique. Merci à vous qui venez de nous suivre. Excellente journée.